Bonjour à toutes et à tous. Ce petit message pour vous prévenir que cet épisode a été enregistré à distance, et non pas en face à face comme d'habitude. Du coup, si vous entendez des différences de son entre mon invité et moi, c'est tout à fait normal. Bonne écoute.
Salut à tous, salut les auditeurs de Bourlinguer. Merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Une invitation pour vous raconter le voyage que j'ai fait cet été, pendant 3 semaines, avec mon ami Lucas. On est parti voyager à vélo en Norvège et un petit bout en Suède au début, avec tout sur le porte-bagages, la tente, tout ce qu'il faut pour dormir, pour cuisiner et puis pour bricoler les vélos.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. 2 fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Victor raconte la Norvège. Avec lui, on a parlé de camping sauvage, de grands crus et de la beauté de l'effort physique.
J'ai bourlingué à travers le monde. Pour vous donner un petit peu de contexte, Lucas et moi, on s'est rencontrés il y a, ça doit faire un peu moins de 2 ans maintenant, et quand on a décidé de partir voyager à vélo tous les deux, on se connaissait depuis même pas une année, et c'était assez drôle, on était partis faire une semaine de ski ensemble, ça s'était bien passé, on était sur le même rythme sportif, on était sur le même délire, hein, et je pense que c'est assez important quand tu pars avec quelqu'un d'être sur le même délire, c'est-à-dire on mange bien, on profite bien de la vie, on ouvre des bonnes bouteilles à midi et le soir, et puis on y va à fond sur le sport, quoi. Le matin, on se lève tôt et on dégaine. Et donc, du coup, est venue l'idée de partir voyager à vélo pendant 3 semaines ensemble. Lucas avait déjà fait un voyage avec un pote dans ce sens-là, et il m'a proposé. Donc, pour moi, c'était un petit peu nouveau. Ça tombait bien parce que je voulais m'acheter un nouveau vélo. Donc, j'ai acheté un vélo pour partir voyager, une randonneuse, comme on appelle ça. Et puis, on s'est fait un petit voyage de 3 jours dans les Ardennes belges. Donc, ça monte pas mal, ça descend pas mal, même si c'est le plat pays. Et puis ça a bien fonctionné parce qu'on était sur le même rythme, parce qu'on avait envie de manger dans les mêmes restos, se balader de la même manière, profiter de la même chose. Et donc du coup, on s'est dit, bon allez, feu, on part 3 semaines. Alors on s'est dit, où est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais bien envie de faire peut-être la Suisse, peut-être les lacs italiens, etc. Et puis Lucas a eu l'idée de la Norvège. Et on s'est dit, bon allez, banco, on part en Norvège, on a pris une carte, on a regardé un peu comment on pouvait faire. Au début, on s'est dit Norvège puis Suède, et puis après, on s'est dit on va déjà faire un endroit bien. Et puis au final, on n'a pas bien sûr pas fait toute la Norvège, parce qu'on est parti 3 semaines. Et on est parti, on a pris une carte, on a regardé un peu ce qu'on pouvait faire, puis après, on a regardé comment y aller. Est-ce qu'on y va en avion, est-ce qu'on y va en train, est-ce qu'on y va en Flixbus, comment on revient, etc. Et on a fait le trajet, puisqu'on a trouvé un bus qui partait de Bruxelles, qui en 22 heures nous amenait à Göteborg, donc sur la côte ouest suédoise, qui est à 4-5 jours de vélo d'Oslo et qui nous permettait après de partir voyager un petit peu en Norvège, vers le nord-ouest, on va dire, traverser la Norvège jusqu'à Bergen, pour après redescendre sur Stavanger, et où là on a réservé un avion pour rentrer. Et donc on est parti pour 20 jours. Le jour du départ, on allait voir des potes dans un parc avec notre vélo. Puis après, on est repassé chez nous, on a chargé les vélos, on est parti, et puis voilà quoi. 22 heures de bus, avec un petit stop en Allemagne à un moment, t'arrives là-bas, t'es un peu fait. Mais voilà, on est un peu parti à l'aventure dans un pays qu'on n'avait jamais visité ni l'un ni l'autre. Et c'était une aventure extraordinaire. Et effectivement, les 4 premiers jours, on a fait Göteborg, Oslo. C'était assez drôle parce que du coup, on était super contents, on était sur les vélos, on pédalait entre 5h30 et 7h par jour, il faisait beau, il y avait beaucoup de vent. Bon, on voyait des paysages qu'on avait rarement vus, qu'on découvrait, une nouvelle culture, une nouvelle langue, plein de choses nouvelles. C'était assez chouette. Et là, ça a déroulé pendant 20 jours, et 20 jours d'efforts physiques, 20 jours d'efforts mentaux, 20 jours de kiff, quoi. 20 jours où tu repousses un petit peu tes limites, où tu apprends un petit peu à te connaître, où tu discutes avec l'autre. Il y a beaucoup de moments aussi où tu parles moins, où tu es dans l'effort. Et puis, il y a des moments où tu es sur le vélo, tu chantes, tu discutes. Il y a beaucoup de moments. Il y a beaucoup de moments qui sont beaux. Et pour vous faire un petit peu voyager à travers l'expérience qu'on a vécue tous les deux, je me suis dit que j'allais partager plutôt avec vous des anecdotes plutôt que vraiment un récit de voyage. La première anecdote que j'aimerais partager avec vous, je crois que c'est le 3e ou 4e jour, on était encore en Suède, et puis on double un couple, pareil, qui voyage à vélo. On les double, ils étaient en train de prendre, voilà, et puis après on s'arrête
pour faire une pause technique et puis manger un petit bout, puis ils nous redoublent, et puis après on les redouble, et puis ça, deux, trois fois comme ça, puis à un moment, bon, bah, on était derrière eux, on trace un peu, on les rattrape, et puis on tape la discute, quand on dit, tiens, vous allez où, vous dormez où, vous faites quoi, vous baladez. Il s'avère qu'on allait dans la même direction, et donc du coup, on se dit, bon, bah, allez, on a qu'à rouler ensemble, quoi. Le cours, on passait bien, c'était un couple d'Allemands. Et puis c'est parti, on roule avec eux. Ils avaient, eux, plus des vélos VTT plutôt que des vélos randonneuses, mais ils avaient mis les sacoches et tout dessus. Et puis on part, et puis à un moment, on se dit, bien, on va aller manger là-bas. Et puis pour y aller, il y avait deux routes. Il y avait une route un peu plus longue et une route un peu plus courte. Et c'est moi qui avais j'utilisais une application qui s'appelle Naviki, qui est plus une application de VTT. Qui est une application de vélo de voyage. Et du coup, on leur dit, bah, allez, on va par là, vous allez voir, ça va être plus rapide et tout. Naviki nous dit que c'est plus rapide. On s'est retrouvé en pleine forêt, a pu avoir de chemin avec les vélos qui font allez, entre 10 et 12 kilos, plus entre 15 et 20 kilos de matos dessus, entre la tente, le sac de couchage, la bouffe, les affaires, les trucs pour réparer. Et donc, du coup, c'était assez marrant parce qu'on se regardait, on se demandait ce qu'on foutait un petit peu là. Très marrant parce qu'on n'avait pas du tout envie de faire demi-tour, on continuait à avancer dans la forêt. Et à un moment, ça donnait rien. On regardait sur les cartes et tout, on était paumés. Et donc du coup, on a regardé sur la carte où était la route la plus proche. Et on a vraiment traversé à travers bois, donc plus aucun chemin. On est même passé par des chemins pédestres, on a dû porter les vélos. Et on a dû, on a marché à côté des vélos pendant un kilomètre, quoi. Pour au final traverser un ruisseau, arriver au milieu d'un champ, avec la route qui était à 50 mètres, quoi. C'était assez marrant parce que du coup, c'est de la grosse galère, mais c'est la grosse galère tous ensemble, avec des gens que tu connais pas depuis longtemps. C'est une grosse galère que tu partages et puis tu te marques carrément, quoi. C'est drôle. Et bon, on est arrivé au resto, les mecs nous ont vu arriver, ils nous ont dit on ferme dans 20 minutes, donc on avait un peu les boules. Donc on a dû prendre, il n'y avait plus que des sandwichs, on a dû prendre 10 sandwichs pour 4. On a enquillé les sandwichs, on a pris des bières et puis on est resté sur la terrasse pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, à échanger sur la vie, sur plein de trucs, sur pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous a amené à voyager en vélo. Et puis le soir, on s'est trouvé un camping au bord de l'eau qui était. Camping en Suède où en fait t'arrives, il y a un numéro de téléphone, t'appelles et puis le gars il vient, il dit tu te mets là, il y a un champ énorme, tu pourras te mettre où tu veux, il dit non, tu te mets là, tu le payes, puis il s'en va, il nous a filé un peu de monnaie pour la douche, parce que c'est les monnaies où t'es obligé de mettre des pièces. On lui a pas demandé combien de temps ça durait quand tu mettais une pièce, et donc du coup forcément moi je suis allé prendre ma douche en premier. Déjà je me suis trompé, je suis allé chez les femmes, et en plus j'ai pris un peu mon temps, parce que quand tu roules toute la journée, t'es content de prendre une bonne douche chaude, enfin, et ça devait durer 3 minutes le truc. Et le truc s'est arrêté, et j'avais du savon partout sur le corps, mais j'étais encore trempé, quoi. Donc j'ai dû attendre que... Déjà j'ai réalisé que j'étais chez les femmes, et après j'ai dû attendre que toutes les femmes soient parties, pour me retrouver à poil, en train de me passer de l'eau de l'évier, enfin du lavabo qui est commun à tout le monde, pour me rincer le corps. Puis après, super soirée, on a croisé des Suisses allemands qui étaient dans le camping... qui voyageaient en camping-car, et puis on a bu un coup avec eux. Nous, on avait ramené une bouteille de Calva, en bon normand que je suis, donc on a partagé le Calva avec eux, ils avaient du schnapps, on a fait à manger avec eux, on a rigolé, et puis voilà, quoi. Et le lendemain, on est reparti, on a laissé nos amis allemands derrière nous, puisqu'ils avaient un rythme un peu moins soutenu. On est parti comme des balles, et puis au final, on s'est recroisés à midi, parce qu'ils sont arrivés une heure après nous, dans le même resto, et parce qu'on discutait avec eux, on a failli louper le bateau qui nous faisait avancer un petit peu pour aller vers Oslo. Enfin voilà, ça c'était un moment qui était assez marrant et c'était un moment qui était fort parce qu'on venait juste de partir. On était dans un pays pas francophone, pas anglophone et on ne savait pas trop comment on allait rencontrer des gens, croiser des gens. Et du coup ça ne nous a pas forcément rassurés parce qu'il n'y avait pas d'inquiétude, mais ça nous a porté, c'était assez chouette. On a toujours contact avec eux, on s'est fait un groupe WhatsApp, on s'envoie des photos de temps en temps, c'était assez drôle. Ça c'est une anecdote assez marrante. J'ai une autre anecdote. Départ d'Oslo le matin, il pleut des masses et tout. Lucas, il n'a même pas pris de vêtements de pluie parce qu'on est un peu parti à l'arrache en regardant pas vraiment la météo qu'il ferait en plein mois d'août en Norvège. Et on passe dans un magasin pour qu'il s'achète un pantalon de pluie, on part, etc. Il pleut, on ne voyait pas à 100 mètres. On arrive en pleine forêt, il y a un énorme parc en fait quand on part du nord-ouest, vers le nord-ouest quand on part d'Oslo, hyper joli. Et on part pour faire 100 bornes dans la journée, quoi. Ça monte, parce que Oslo est au niveau de la mer, donc forcément ça monte, puis il y a tout un massif montagneux qui part vers quand on part vers l'ouest, nord-ouest d'Oslo jusqu'à la mer. On croise un élan, enfin un moment super chouette en fait, mais on commençait à avoir un peu froid et un peu faim, et on ne trouvait pas d'abri pour se faire un truc à manger, ni même pour manger un sandwich, il pleuvait vraiment beaucoup. Et puis on roule, et moi à un moment je m'arrête, je veux redémarrer, je fais un truc hyper idiot, je passe une vitesse pour redémarrer parce que je patinais. Et comme on n'avait pas graissé les chaînes le matin, je pète ma chaîne. Et donc là, Bah, du coup, là, on se barre carrément, on se retrouve sous la flotte, on a faim, on fait. Voilà, donc on avait bien sûr un dérive chaîne, plus des attaches rapides, on commence à bricoler. Forcément, le dérive chaîne et les attaches rapides ne sont pas dans la même sacoche, donc tout commence à être trempé, enfin, le bazar. Et au moment où tout est réparé, ça prend 10-15 minutes, il y a une nana qui arrive en short, en ciré, botte, plein milieu de la forêt, ça faisait 4 heures qu'on était partis. Elle nous demande ce qu'on fout là. On commence à taper la discute. On se rend compte qu'elle est française. Elle nous dit: je suis dans une cabane avec des potes et mon copain pas loin. Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Et on se retrouve avec donc son copain qui était hongrois, je crois, qui était avec deux amis à lui qui étaient hongrois aussi. Donc trois hongrois et une française dans une cabane perdue dans la forêt, loin d'Oslo, un endroit où on peut aller que à pied ou en vélo. À partager un coup de calva et puis faire sécher nos vêtements parce qu'on était complètement trempés, quoi. C'était un moment qui était assez drôle parce que la rencontre était incongrue. Je pense que si on s'était pas arrêté pour réparer le vélo, on l'aurait croisé, on lui aurait juste dit bonjour et on n'aurait jamais lié contact avec cette personne. Et là on a lié contact et on a passé un moment qui était assez drôle, ce qui nous a permis de nous sécher parce qu'on commençait à être mort et puis ce qui nous a permis de nous poser pour grignoter un bout parce qu'on commençait à avoir faim, quoi. Et fallait qu'on trouve un moment et un endroit pour s'abriter, pour manger. Et toutes ces galères, hein, quand tu as des problèmes de matos, tu t'arrêtes et en fait tu. Ah, je sais pas si tout seul serait pareil, mais à deux, en fait, t'es mort de rire, quoi. Tu te marres carrément, tu te dis c'est pas possible, quoi. C'est au moment où il pleut à mort que je suis obligé d'avoir un truc comme ça. Ouais. C'était assez drôle. Assez drôle et on était contents parce qu'on avait passé, je crois, deux nuits à Oslo et on n'était pas vraiment venu pour visiter des grandes villes ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, on retournait dans la nature et c'était vraiment l'objectif, quoi. Et du coup, le soir même, c'est une des seules fois où on a pris un hôtel parce qu'on était tellement trempés, mais jusqu'aux os, quoi. Tout était trempé, qu'il fallait tout faire sécher. Et dans la piole, on faisait tout sécher. C'est-à-dire qu'on ouvrait les tiroirs pour faire sécher des chaussettes des deux côtés, la plaque qui est devant quand tu tires le tiroir. Enfin, on faisait tout sécher, tout sécher. C'était assez drôle. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi, pas aussi mauvais, parce qu'en tant que Normand, je ne peux pas dire que la pluie, c'est quelque chose que j'aime pas, mais. On s'attendait pas à ce qu'il pleuve autant, en fait, ou qu'on ait aussi froid. Et en fait, du coup, je pense qu'à chaque fois qu'on trouvait un Intersport, on achetait du matos. Parce qu'il y avait des trucs qu'on n'avait pas prévus. Donc des vêtements de pluie performants, pulls, bonnets, des chaussettes en mouton, pulls en mouton. Enfin, on a acheté du matos d'hiver, quoi, parce qu'on s'est retrouvé en fait, dans des endroits où il faisait vachement plus froid que ce qu'on pensait. Nous, on est parti un peu la fleur au fusil en se disant, bon, ça va aller. Moi, je suis parti avec un seul pull qui me servait d'oreiller, donc imagine que. Quand tu pédales toute la journée, il transpire un petit peu. Le soir, le truc est trempé, tu le fais un peu sécher, puis après, tu commences à cormorier. Enfin, on a fait. Mais c'est ça qui est génial. On est parti un petit peu en mode, on verra bien ce qui se passe. Et on a beaucoup rigolé, on a beaucoup appris sur le bricolage des vélos et sur le matos qu'on aurait pu emporter, qu'on a acheté tout à petit, ou alors on s'est débrouillé avec ce qu'on avait, quoi. Et puis, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne manière de voir les choses. Une autre anecdote. Commence à rentrer dans la montagne, ça grimpe de plus en plus. Et il faut savoir qu'en Norvège, quand on rentre dans tout ce massif montagneux, donc qui est juste au-dessus d'Oslo, entre Oslo et Stavanger, enfin et Bergen plutôt, il y a beaucoup, 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 beaucoup de tunnels. C'est les rois des tunnels. Ils ont même des tunnels où les voitures, ça fait comme un tire-bouchon en fait. Donc, tu tournes pour monter ou pour descendre vraiment de beaucoup d'altitude. Il y a des tunnels partout. Et donc du coup, quand tu es en vélo, tu te retrouves vite en fait où. Et des endroits où tu arrives quelque part, et si tu veux pas te taper soit la nationale du coin, soit le tunnel, parce que t'as pas le droit d'entrer dedans, parce que c'est un enfer, tu es obligé de te prendre la route de campagne un peu de malade. Un soir, on va dans un camping, hyper mignon, camping avec des chalets peints en rouge, enfin le truc typique norvégien, et puis on regarde la carte, donc du coup, en fait, c'est un peu comme ça tous les jours, hein, c'est-à-dire que le soir, tu regardes ce que tu vas faire le lendemain. Où est-ce que tu vas manger le midi, puis le midi, tu réadaptes en fonction de si tu as eu un problème, si tu as fait autant de distance que ce que tu avais prévu ou pas, et puis tu regardes où tu es dans le soir, quoi. Toutes les demi-journées, en fait, tu prévois un peu ce que tu vas faire, le nombre de kilomètres, le nombre de dénivelés, tu vas prendre dans la tronche, parce que ça a un impact pas mal, ça impacte pas mal l'effort physique. Et du coup, là, on voit un petit chemin dans la montagne qui a l'air sympa, on regarde sur Google Maps, on regarde sur 2-3 apps, on essaye de bricoler un truc, et puis là arrive dans le camping je dirais un vieux monsieur, quoi, un peu hirsute, la barbe, avec une barbichette un peu longue, avec un élastique, les cheveux en arrière, le catogan, un vieux, quoi. Et on lui dit qu'on va passer par là, et le mec nous dit qu'on est cinglé, que c'est un dénivelé de malade, que la route est pourrie, que si on fait ça, on va morfler, qu'avec les vélos qu'on a, et tout le poids qu'on a sur nos vélos, on n'y arrivera jamais, que c'est trop long, que je crois qu'il y avait 14 km de montée. Je pense que Lucas serait mieux parce que moi j'ai oublié un peu ce style de truc. Mais c'était une grosse montée. C'était vraiment, on l'a surnommé notre Mont Ventoux. Et nous on se dit, bah, on va y aller. Je veux dire, on est là pour vivre des trucs comme ça, quoi, des sensations fortes. Et en fait, c'est le seul soir où, quand on s'est couché dans la tente, il y avait un silence. Où on n'a pas trop picolé la veille, où le matin s'est levé. Bon, effectivement, à un moment, quand tu voyages pendant longtemps avec quelqu'un, il y a un rituel. On lève le matin, chacun fait son truc dans sa tente, il y en a un qui plie la tente, il y en a un qui prépare le petit-déj. Enfin, ça se fait en fait de manière assez, assez naturelle. Il n'y a pas d'organisation, les choses se font. Et là, ce matin-là, on ne parlait pas. On parlait pas. On monte sur les vélos, on fait quoi 100 mètres en vélo, et là, on arrive devant le mur. Quoi. Et on se dit, bon, on va se faire tirer ça. Et là, t'es en voyage, mais c'est l'effort physique qui prime. C'est-à-dire que tu regardes autour de toi, tu vois des choses magnifiques, mais c'est vraiment l'effort physique qui prime. Je me souviens, il faisait froid, il faisait frais, c'était le matin, il n'avait plus avant, donc il faisait humide, il y avait un peu de brume. Et là, tu commences à grimper. Et vraiment, tu te dis, j'aurais dû prendre mon piolet avec moi, quoi, parce que tu grimpes vraiment, quoi. Et là, c'est top, parce que le voyage à deux devient beaucoup plus personnel. L'effort physique est vraiment personnel, c'est quelque chose que tu partages peu, parce que tu pars pas forcément sur le même rythme. Moi, je sais que je partais beaucoup plus vite que Lucas dans les montées. Puis, petit à petit, j'avançais un peu moins vite et Lucas avait tendance à me rattraper. Et donc là, sur les courtes montées, c'est plutôt un faux rythme, mais sur des longues montées, ça fait une différence. Voilà, chacun va à son rythme, c'est logique. Un peu comme quand tu cours, quoi. Tu gères un peu ta course comme tu veux. Et là, c'était génial, quoi. Là, on est arrivé là-haut, on était morts. Et le vieux nous avait... En nous parlant de ça, en nous disant qu'on était malade, que lui, il faisait quand il était jeune, mais qu'il arrivait là-haut, qu'il était claqué... Ça a mis une intensité au moment et à l'épreuve qu'on n'aurait peut-être pas eu si on n'avait pas rencontré cette personne. On est arrivé là-haut, je sais même plus du tout ce qu'on a fait après ce jour-là, mais c'était un moment assez fort et un moment, c'était pas un moment de balade, quoi. C'était vraiment un moment d'effort physique et d'harmonie avec la nature et aussi avec le vélo, puisque dans un voyage comme ça, ton vélo à un moment, bah, tu le bricoles, tu le connais par cœur, il y a vraiment un côté affectif envers l'objet et c'est ton vélo, quoi. Et là, t'es assis sur ton vélo, tu pédales, c'est Lucas qui avait la tente, mais moi, du coup, j'avais la bouffe, la cafetière italienne, les casseroles, etc. Et t'as tout sur toi, t'avances, tu montes, tu grimpes, t'as l'impression de grimper. Tu grimpes, quoi, tu crapahutes, et c'est un moment qui est génial. C'est assez dur, en fait, de retranscrire ça, mais c'est un moment qui est merveilleux. T'as les jambes qui tirent, c'est presque un moment de douleur, en fait. Mais c'est du bel effort. C'est un effort que tu as envie de retrouver le plus vite possible, parce que c'est un moment qui est génial. Il y a eu plein de moments comme ça, de grimpettes. À un moment, on s'est tapé un tunnel, et donc du coup, on était obligé vraiment... Là, on s'est fait un col. Tu avais une côte qui était... Le dénivelé était à 20%. Et là, c'est vraiment un mur. Et tu morfles carrément, quoi. Ça, c'était fort. T'arrives là-haut, t'es le roi du monde, quoi. Et après la descente, du coup, tu viens de passer un col, il fait super beau, tu descends, t'es à fond, tu descends à 60, 65 km/h, t'as les bagages, t'as un soleil de malade, enfin c'est ça qui est génial dans le vélo, c'est que grimper est compliqué, mais redescendre, il y a un côté vitesse, il y a un côté liberté, tu fais plus d'efforts physiques, t'es juste dans le contrôle de ton vélo, enfin c'est un vrai plaisir. On a fait un truc assez chouette dans les montagnes quand on était en Norvège, c'est qu'on a fait le Rallar Vegan. Donc en fait le Rallar Vegan, si je me souviens bien, c'est 80 km de piste. Soit pédestre, soit vraiment VTT dans les montagnes, qui te fait passer en fait par le point le plus haut de ce massif, qui est à 1230 mètres, quelque chose comme ça, et par les stations de ski. Et en fait, t'as un train qui te permet de monter et de redescendre de l'autre côté, qui s'appelle le train des cheminots, et donc les gens viennent là-bas en train, quoi. Et nous, du coup, on se dit, bah, on va le faire à vélo, quoi. On s'est fait un super spot de camping sauvage, et ça, c'était merveilleux. Là, on a eu froid. Il a fait très froid la nuit. Je crois qu'il faisait 3 degrés quand on s'est couché à l'extérieur de la tente. Et là, on s'est fait un feu, on s'est fait à manger. Tu vois, tu coupes des carottes, des oignons, tu mets du riz avec des saucisses. Enfin, tu te fais un truc dans une toute petite casserole avec ton réchaud. Tu te fais plaisir, quoi. Là, t'es vraiment, c'est l'instant bonheur. T'es dans le kiff. T'as personne. T'as des moutons partout. T'as plein de moutons en Norvège, dans la nature, avec des cloches qui, sûrement, ils les laissent pâturer l'été et puis ils les rentrent l'hiver. Et donc, là, t'entends le bruit de la rivière, t'as les montagnes autour de toi, et puis t'as les moutons, et... Ouais, là, c'était un moment assez chouette aussi. On a écouté pas mal de musique avec Lucas pendant ce voyage, on aime pas mal la musique tous les deux. Tu mets un petit morceau, ou un petit album, un truc que t'aimes bien, et tu regardes autour de toi, et puis après, tu coupes, t'écoutes les oiseaux, t'écoutes la rivière, t'écoutes plein de trucs, c'est formidable. Ce soir-là, dans la tente, on a une photo qui est assez drôle. On dort avec les gros bonnets, et puis tout ce qu'on a, quoi. C'est-à-dire, moi, j'avais t-shirt, chemise et pull. Dans le sac de couchage, qui était un sac de couchage 10 degrés, et je crois que Lucas, il avait un sac de couchage 0 degrés, et c'est pareil, quoi. Il était t-shirt, pull en mouton, bonnet, enfin, tu dors avec tout, quoi. On avait une tente Ikea, 3 places à 30 euros, donc autant dire que c'était pas vraiment le truc pour ces conditions-là. Mais c'était ouais, c'était très marrant. Et donc là, tu te couches, enfin, tu vas te coucher, il fait beau, il fait pas nuit très longtemps l'été là-bas. Et tu te dis, ouais, demain matin, ça va être tout bon et tout. Et puis en fait, tu te lèves le matin, il pleut, il fait gris, c'est la mort, tout est humide, tu te lèves, tu prends le petit-déj, et là, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Et là, on est reparti à vélo. On est parti à vélo, on est passé par le point culminant, on a pris une photo, c'était marrant. Et puis après, on allait escalader, on arrivait à la station de ski et on est allé escalader dans un hôtel où on a pris une grosse soupe, plus un burger en plus, ou une viande ou un truc comme ça, on a bien mangé. Parce que tu manges beaucoup quand tu voyages comme ça, tu dépenses énormément, énormément de calories via le vélo. Moi, j'ai perdu 7 kilos en 3 semaines, alors que j'ai jamais autant mangé de ma vie. Et là, on s'est arrêté, on a mangé, puis on est reparti, on est redescendu. Et fait assez drôle. En descendant, moi je sens que ma roue arrière commence un peu à faire la tronche. Elle était déjà un peu voilée à la base. Et là, elle commence un peu à faire la gueule. J'ai un rayon qui pète, deux rayons qui pètent. Je crois même un troisième qui commence à lâcher. Et donc, du coup, là, on se retrouve. On arrivait, on était un samedi. Et donc, on a regardé sur internet où est-ce qu'on pouvait trouver le magasin qui vendait des roues de vélo le plus proche. Et on était, je pense, à 30 bornes. Et donc, du coup, là, on s'arrête pour manger, on chill. À un moment, on se rend compte qu'on est complètement débile parce qu'on s'est arrêté beaucoup trop longtemps et on part comme des balles et on fait, je sais plus combien de bornes honnêtement, mais en un temps record quoi. Là, on n'a jamais roulé aussi vite, aussi longtemps. Et là, on arrive dans le magasin, ils avaient une roue arrière, c'était la seule roue arrière qu'ils avaient à la bonne taille, donc j'achète la roue. Et ils ont été vachement sympas, je leur ai laissé ma pièce d'identité, ils nous ont prêté un fouet à chaîne, c'est un truc qui permet de bloquer ta cassette de ton vélo arrière pour démonter ta roue arrière, plus une clé, une grosse clé. Qui nous a permis, en fait, on a acheté la roue, et je leur ai dit, bah voilà, dans 2 jours, on vous le donne, on vous la rend, parce qu'en fait, c'était à l'endroit où il y avait le Trolltunga, c'est ça, l'espèce de rocher, la langue du troll, donc on voulait aller faire la randonnée du Trolltunga le lendemain, et donc du coup, le dimanche, on a fait le Trolltunga, et lundi matin, on leur a rendu le matos, et quand on a bricolé, on n'est même pas allé au camping, on est allé s'acheter des bières, on s'est mis sur la place du village. Les gens nous regardaient un petit peu aussi, donc t'es en cycliste, tu vois, le truc en lycra hyper moulant, et on a commencé à démonter la roue du vélo, quoi. Et à tout changer. C'était assez drôle. Moment assez chouette aussi. Et Trolltunga le lendemain. Trolltunga, à la fois très cool et un petit peu. Ça représente un petit peu ce que j'aime pas trop dans le voyage, c'est-à-dire le selfie Instagram. Il faut savoir que c'est comme une randonnée qui te prend l'aller-retour, te prend une bonne journée. Bon, nous, ça faisait, je pense, 10 jours qu'on faisait pas mal de vélo, donc on était quand même assez bien physiquement. Et moi, à un moment, c'était totalement exagéré comme réaction, mais j'ai dit, Lucas, j'en ai marre, quoi, j'ai l'impression d'être sur un autoroute, quoi. T'as les gens 5 mètres devant toi, t'as les gens 5 mètres derrière toi, moi j'ai envie d'être en pleine nature, donc je me suis barré tout seul sur un sentier qui était un peu plus excentré, et sans même lui dire, je suis parti, j'imagine marcher 1 demi-heure, 3 quarts d'heure tout seul, puis après je l'ai rejoint, on s'est rejoint. Mais Trolltunga, ouais, sympa, bah, c'est beau, forcément, t'arrives dans les fjords, t'as des vues de malade. Mais les gens font la queue pendant 2 heures pour prendre une photo au bout du rocher, quoi. Et ça, c'est le truc le plus. C'est un jugement, hein, mais je trouve ça ridicule. Voilà, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Et ça m'embête un peu, du coup, de passer du temps dans mes voyages avec des gens qui vivent des choses comme ça. Après, c'est un endroit qui est magnifique. Nous, on a pris plein de photos à plein d'autres endroits. Du coup, on se moquait pas mal des gens qui faisaient la queue. Mais c'était chouette. C'était chouette. C'est un peu la tour Eiffel de Norvège, quoi. C'est-à-dire que t'as tout le monde qui vient là, quoi. Tu vois des gens, des Asiatiques, tu vois des gens qui viennent de partout dans le monde, tout le monde fait ce truc, quoi. Sauf que c'est physique. T'as quand même beaucoup de marche, quoi. Je crois que c'est un trek de 30 km et t'as beaucoup de dénivelé à faire. Très sympa. Je crois que c'est dans ce bled-là, c'est dans un autre bled, hyper drôle. On a mangé un. On arrive dans une. Tu sais, quand t'arrives dans une ville, tu vas un peu sur TripAdvisor ou sur Google pour regarder le meilleur resto du coin. Comme nous, on avait envie de se taper des bons trucs. Et on a mangé dans un Mexicain, je pense que c'est le meilleur Mexicain que j'ai jamais mangé de ma vie. C'était excellent. On est arrivé à 15h et les restos ouvrent très tôt en Norvège. Et on a mangé à 15h un des meilleurs Mexicains qu'on a jamais mangé de notre vie, en Norvège, dans la montagne. Et donc, ça c'est assez drôle. T'as des trucs comme ça, des fois tu comprends pas trop. Les restos en Norvège, pour le coup, c'est un budget quand même, parce que si tu veux bien manger, faut y aller, faut sortir un peu. Et là, ouais. Il y a un autre resto qu'on a fait, je crois que c'est juste avant de rentrer sur le Ralar Vegan, très sympa, très classe. Là, on était sûr qu'on allait claquer, on allait casser les portefeuilles. Et les gars, juste pour l'anecdote, hein, ils avaient une carte de 70 pages de vin. Et le gars, en fait, le chef était passionné de vin, quoi. 70 pages de vin, ils avaient des Châteaux Marcaux, des Cheval Blanc, des Châteaux Yquem, ils avaient toutes les années depuis 15 ans. Enfin, c'était impressionnant. Impressionnant. Des fois, dans des tout petits bleds, tu vois, les mecs, voilà, ils ont pété un plomb, ils ont un restaurant hyper classe. Enfin, pas hyper classe, mais très bon service, très bonne nourriture, et une carte de vin de 70 pages. Voilà, tu comprends pas pourquoi. Génial, génial. Du coup, on a sauté sur l'occasion, on a passé une très bonne soirée avec eux. Je parlais un peu de la montagne et je parlais des tunnels tout à l'heure. Il y a une anecdote que je tenais à vous raconter aujourd'hui sur ça. Je pense que c'est le moment, un des moments les plus intenses qu'on a vécu de tout le voyage. On roulait et on descend, un truc super joli et tout. On ouvre les bras, Lucas il est devant, il se filme, il me filme derrière, on ouvre les bras. Puis il filme devant et tout. Et à un moment, on passe et on se retrouve sur une espèce d'autoroute. Bon, ben on roule quoi. En fait, t'as tellement l'euphorie du moment qui se passe bien, l'effort physique, toutes les hormones qui montent et tout, qu'en fait t'es bien. Tu continues, on roule. Et à un moment, on arrive devant un tunnel. Et là, on se dit, bon, pas normal. Et on voit écrit un panneau 4 km. Et là, on se dit, bon. T'es sur une autoroute, il y a un tunnel de 4 km devant toi, qu'est-ce que tu fais? On regarde la carte pour faire un. Il y avait un détour vraiment énorme à faire pour aller là où on voulait. Et donc, du coup, là, on descend de vélo, on met les lumières à fond, partout, devant, derrière, sur les sacoches, pour être vraiment vu. On prend un coup de calva, bien intelligent que nous sommes, et on s'engage sur les petits trottoirs qu'il y a sur les côtés dans les tunnels qui font entre 1 mètre et 1 mètre 20. Alors, on a eu de la chance, le tunnel était descendant. Mais je sais pas si vous vous rendez compte le bruit qu'il y a dans un tunnel, le passage des voitures. Parce que nous, on le voit déjà quand on est dans l'habitacle d'un véhicule et qu'on traverse un tunnel, on se rend compte du bruit que ça fait. Et ben là, tu le fais en vélo, 4 km. On était à 20 km/h, je pense. Je pense que c'est là, en fait, les voitures passent à 40 cm de toi. Si tu tombes, il y a une bagnole qui arrive derrière, tu vas mourir, quoi. Parce qu'il y a une voie de chaque côté dans le tunnel. Les gens, ils roulent à 90 km/h, je pense, ou 70, quelque chose comme ça. Et t'as un truc pour rouler qui est tout petit, quoi. Qui fait 1 mètre, quoi. Là, t'es tendu, t'as un truc qui se passe dans ton corps, en fait, où tu tiens ton vélo, et t'es un bout de bois, quoi, t'es tendu, tous tes nerfs sont à fond. On est sorti de ce truc, on avait mal au crâne, en plus, il y a deux enfoirés de. Enfin, bon, c'est pas très gentil de dire ça, mais deux camions qui sont passés à côté de nous, qui ont actionné la corne de brume, on a fait des bonds de 50 cm sur nos vélos, on a cru qu'on allait mourir à ce moment-là. Parce que les mecs nous klaxonnaient parce qu'on n'avait pas le droit d'être là, mais bon, c'était pas hyper pertinent de nous foutre les jetons. Et effectivement, on s'est rendu compte que c'était pas malin d'être là, quoi. Et on a fait ces 4 km comme des balles, et on est sorti de ce truc, on s'est mis directement sur la bande d'arrêt d'urgence, on a soufflé pendant 20 minutes, on était tétanisés, quoi, paralysés. Ça, c'était un moment assez intense. Pas drôle pour le coup, pas drôle du tout. On en a rigolé le lendemain du tunnel, on l'a raconté à beaucoup de potes cette histoire, parce que c'est une histoire qui nous a le plus marqué, parce que là il y a vraiment un côté danger en fait. Et il y a d'autres moments où c'est intense, parce qu'il y a un côté effort physique, ou alors harmonie avec la nature, ou le paysage, ou le temps, ou la musique que t'écoutes, ou les chants, ou l'amitié, ou les hormones qui font que dès que tu dis un mot ou une phrase, l'autre est mort de rire, parce que en plus tu passes du temps ensemble, donc quand t'es en pote, tu commences à développer ton propre langage, à raconter tes propres conneries, ou dès qu'il y en a un qui dit un truc, tout le monde se marre, enfin à deux tu te marres tout le temps. Mais là, il y avait une intensité qui n'était pas basée sur le mot, qui n'était pas basée sur la joie, quoi. Qui était plutôt basée sur le. On se dit qu'on est passé pas loin de faire quelque chose de très débile, quoi. Mais ouais, ça, c'était un moment fort du voyage. Voilà. Bah, je lève les yeux un peu au ciel et je repense à plein de choses. Et je pense qu'il y a plein de choses que j'oublie. Mais je suis super content de vous partager ça avec vous. Et puis voilà, quoi.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter cette histoire en particulier?
Je pense qu'aujourd'hui, je vous ai raconté ce voyage parce que c'est un voyage un petit peu nouveau pour moi. Dans le sens où avant, j'avais fait des voyages souvent seul et parfois à deux, mais en backpack. C'est-à-dire que tu fais beaucoup de rencontres, tu prends les transports en commun, tu vas dans les hostels, etc. Et je l'avais fait dans des endroits un peu plus touristiques. J'étais allé en Inde et j'avais fait un tour d'Europe. Et là, à vélo, il y a vraiment une autre dimension qui est beaucoup moins sociale, où tu fais quand même beaucoup moins de rencontres, parce que tu es vraiment beaucoup dans la nature. Alors effectivement, sur 3 semaines, il y a plusieurs rencontres, mais il y en a quand même beaucoup moins. Ouais, c'est une autre dimension, et puis c'était un test pour moi, pour savoir si j'allais aimer ça. Le côté camping, le côté autonomie, le fait de tout avoir sur soi, je pense que c'est un truc assez chouette. Et ouais, je voulais partager ça avec vous, et puis je pense aussi que c'est une belle manière de voyager, qui est un peu plus écologique, un peu plus responsable, un peu plus lente, et on va traverser des endroits. Il y a vraiment un côté baroudé, en fait. Ou bourlinguer.
Bon alors, tu le dis toi-même, vous êtes parti la fleur au fusil pour ce voyage. Est-ce que de manière générale, tu pars toujours en impro total, ou est-ce que ça t'arrive de préparer tes voyages à l'avance?
Alors là, pour le coup, c'est vraiment la première solution. Comme je te le disais, on est parti sans regarder la météo, sans trop prévoir, sans vêtements de pluie. On a dû acheter pas mal de trucs. Je pense que c'est un petit peu inconscient, mais je pense que si c'est une volonté Ouais, une volonté de voir un peu ce qui va se passer, quoi, de partir un petit peu. Il y a un côté aventure. Il y a un côté, ouais, y a un côté aventure. Et la meilleure illustration de tout ça, c'est il y a quoi, 5 ou 6 ans, premier voyage en Inde, je suis parti 2 mois et j'ai ouvert le guide de routard dans l'avion pour me rendre compte que j'y allais quasiment pendant la période des moussons. Gros génie, Victor. Et pourtant, j'ai passé un voyage extraordinaire, c'était assez drôle, mais du coup, j'ai eu un peu de flotte de temps en temps. Donc, plutôt à l'arrache. Plutôt à l'arrache.
Quel que soit le voyage, qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi dans ton sac?
Mon couteau, ça fait un peu stéréotype, mais déjà pour me faire à manger, puis pour couper un truc, pour couper, réparer un truc, que ce soit en vélo ou en backpack, le couteau c'est toujours utile. Honnêtement, je conseille à tout le monde. Et puis il y a un côté affectueux, c'est chouette. Non, non, le couteau.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans son premier voyage à vélo?
Pars avec un peu de matos, on sait jamais. Et puis, prévois pas trop les choses, quoi, en fait, parce que tu feras jamais le nombre de bornes que tu as prévues. Ça dépend tellement de ta forme, ça dépend de ta volonté ce jour-là. C'est très mental, donc pars peut-être pas tout seul. Mais du matos, prévois pas trop, et puis pars avec un bon copain, quoi.
Moi, je dis souvent que la meilleure façon de connaître une personne, c'est de voyager avec elle. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça? Et est-ce que ça a changé votre relation avec Lucas de partir en voyage comme ça?
Je sais pas trop si ça a changé notre relation. En tout cas, ça l'a intensifié, ça c'est sûr. On a échangé beaucoup de choses. Après, au bout de 3 semaines, on était aussi contents de voir d'autres gens et de plus être 24 sur 24 ensemble. Parce que là, franchement, t'es tout le temps ensemble. Vu que t'es dans la nature en plus. Mais on était déjà partis faire du ski ensemble, etc. Donc on avait déjà une bonne relation. On avait déjà fait du vélo ensemble. Je pense que ça a intensifié les choses. T'apprends beaucoup plus sur l'autre et puis tu fais un petit peu plus d'efforts. Donc tu fais des efforts parce que t'aimes la personne avec qui t'es, quoi.
Je voulais savoir comment tu racontes et comment tu documentes tes voyages. Est-ce que c'est via de la photo, de la vidéo? Est-ce que tu tiens un carnet de bord? Et est-ce que tu as un médium préféré?
Alors ma perception de comment je raconte le voyage a vachement changé. Je pense que je suis on fait partie de la grosse génération Instagram. Je suis parti, j'ai fait plusieurs voyages, j'avais l'habitude de prendre des photos de manière assez quotidienne, surtout quand je suis seul, quand je suis à 2 mois. Et en fait, là en Norvège, j'ai un petit peu changé. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je vais poster tous les 3-4 jours une dizaine de photos pour documenter un peu, pour montrer, etc. Et en fait, j'ai continué à prendre des photos, mais j'ai totalement arrêté de les poster. Parce que ça m'emmerdait, parce que ça me sortait de mon voyage, parce que j'étais obligé de trier, parce que j'étais obligé de regarder quelle photo était la mieux et tout, et en fait ça m'emmerdait, quoi. Donc sur le moment, il n'y a plus d'échange. Je trouve que ça me fait trop sortir du voyage. Après, je me suis acheté en bon hipster un petit Olympus, un petit boîtier, et je fais une petite photo que j'imprime en rentrant avec des pellicules, et ça c'est assez cool, parce que tu te restreins dans le nombre de photos que tu prends. Et parce que ouais, tu oublies totalement les photos que tu as prises, parce que tu les regardes pas jusqu'au moment où tu rentres et tu les fais imprimer, quoi. Donc tu découvres tes photos, je sais pas, 3 semaines après ou 2 semaines après te rentrer, en fonction un peu de ta motivation. Et ça, c'est assez cool. Ça, j'aime bien. Tu as les photos surprises que tu avais oubliées.
Une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu es atteint de ce qu'on appelle le blues du voyageur ou le spleen un peu post-voyage? Et si c'est le cas, comment tu te soignes?
Oui, totalement. Comme tout le monde, je pense que ça dépend pas mal de la météo du pays que tu quittes, la météo du pays dans lequel tu reviens. Mais ouais, forcément. Surtout là, il y avait une grosse dépense physique journalière, et puis d'un coup, de rien, quoi. Tu retournes, tu passes d'un moment où tu as assez peu d'activité, pardon, cérébrale, prise de tête. C'est-à-dire que la plus grosse réflexion, c'est où est-ce que je dors, derrière quel buisson je vais aller faire mes besoins, et où est-ce que je mange ce midi, pour stéréotyper un peu. Et après, tu retournes au boulot et en fait, tu n'utilises plus ton corps, tu es assis toute la journée. Et par contre, tu es à fond au niveau cérébral, quoi. Et donc, ouais, donc, le choc est gros. Et du coup, il y a un petit blues. Comment je me soigne? Bah, je me remets dans ma vie, je refais les trucs que j'ai pas fait pendant le voyage, je joue à FIFA, je vais voir des potes dans des bars, je profite de la vie et puis je continue à faire du vélo.
Tu mentionnes plusieurs rencontres que vous avez faites au cours de ce voyage et comme quoi tu gardes contact avec ces personnes. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement ou est-ce que pour ce voyage c'était une exception?
Je pense que oui, ça m'arrive de garder contact, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Ça dépend vraiment des rencontres, du temps que j'ai passé. Il y a des gens avec qui je suis parti en Inde, enfin que j'ai rencontré quand je suis parti en Inde la deuxième fois, avec qui j'ai sympathisé. Je pense qu'un jour, si je vais pas loin de chez eux, j'irai les voir avec grand plaisir. Mais c'est pas quelque chose que je fais de manière systématique. Et le contact, de toute façon, s'opère assez facilement au quotidien, puisque il n'y a pas un rythme de relation hyper important via les réseaux sociaux, etc. Donc c'est plutôt, tiens, si on se revoit physiquement, c'est cool, mais il n'y a pas un échange sur les réseaux. par messagerie super, super dense.
Quels sont tes projets de voyage futur ou une éventuelle bucket list ou des endroits que tu aimerais visiter dans les mois ou les années à venir?
Alors là, c'est vraiment de l'actualité, puisque s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire qu'on traverse tous, que le monde traverse, je serais parti faire un voyage d'un an ou un peu plus à vélo, puisque cet été, c'était le test, le grand test pour repartir. Et avec l'idée, c'était de partir de la maison en Normandie et d'aller jusqu'au Japon à vélo, sans jamais prendre l'avion. Donc j'aurais pris le Transsibérien en train, etc. J'aurais fait des bouts en train, mais je serais descendu un petit peu en Espagne, nord de l'Italie, Slovénie, Autriche, Slovaquie, puis après train jusqu'à Saint-Pétersbourg, Moscou en vélo, et puis voilà, après le lac Baïkal, la Mongolie, retour peut-être dans le Kamchatka, en Russie, tout à l'est, et puis après Japon. Et donc voilà, bah là c'est un petit peu à l'arrêt, du coup on va voir si je pars un petit peu plus tard ou si je remets ça l'année prochaine, on verra, mais j'ai hâte.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc tu as un espace qui t'est réservé pour partager une anecdote, un proverbe, une recommandation. C'est à toi.
Le mot de la fin, je pense que ça serait une invitation au voyage pour dire à tout le monde, tous les gens qui écoutent, que ce soit des gens qui me connaissent ou d'autres gens, continuez à aller voyager, partez voyager, prenez du temps en fait, prenez du temps pour voyager lentement. Allez un peu au fond des choses, prenez le temps de vous rencontrer un peu, passez du temps dans un endroit, vous poser, bouquiner dans un endroit. Un peu s'incruster dans le paysage, quoi. Pas venir juste pour y prendre une photo. Peut-être faire moins de choses, mais faire les choses de manière un peu plus intense, quoi. Et aujourd'hui, le monde change, il y a plein de choses qui changent. La planète, on va pas la laisser de la même manière demain qu'elle n'était hier ou aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut profiter. Il y a plein d'espaces qui sont en train de changer. Il y a plein d'espaces qui sont accessibles, qui ne le seront peut-être plus. Il y a des espaces qui ont encore leur innocence, qui l'auront peut-être plus demain parce qu'ils deviendront à la mode ou touristiques, etc. Donc profitez, partez, voyagez, que ce soit à vélo, en van, en train, en bus, en stop, faites ce que vous voulez. C'est la plus belle invitation, c'est la plus belle chose que je peux vous souhaiter. Et puis, si possible, revenez et faites une émission avec Bourlinguer pour nous faire partager, quoi. Ciao.
Merci beaucoup. Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur.